Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour Patrick Cohen.
Ancien directeur du Monde, créateur du 1 des trimestriels America et Zadig, vous lancez mercredi prochain Légende. C'est un grand format et même un très grand format, 40 cm de haut, hein, je l'ai entre les mains. 100 pages, très richement illustrées, consacrées chaque fois à une figure de légende. C'est donc Zidane qui occupe le numéro 1 de ce nouveau magazine, qui ne ressemble à aucun autre. C'était l'un des défis que vous vous étiez fixé.
Oui, c'est vrai que c'est un défi de forme. Et comme on dit quelquefois, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc ça dit beaucoup, j'espère, du contenu. Mais effectivement, dès lors que ces légendes sont illustrées par des photos, j'avais envie que ce soit plus grand parce que la photo parle quand elle atteint une dimension vraiment non pas réelle par rapport à la taille réelle des protagonistes, mais en tout cas qu'elle nous en met plein les yeux. Et on peut entrer comme ça dans l'univers de Zidane, en l'occurrence, avec ce format.
Un objet à garder, un objet de collection. Hein. La recette de légende, alors de, vous l'avez dit, de belles et grandes photos, dont celle que Stéphane Meunier, l'auteur du doc oui. Les yeux dans les bleus, a saisi à Clairefontaine en 98. Des textes originaux de très bons auteurs, Vincent Duluc, la grande plume football de l'équipe, Olivier Guez, l'écrivain prix Renaudot 2017. Comme vous êtes plutôt vélo que Calcio, plus cycliste que footeux, qu'avez-vous appris de la légende de Zidane, Eric Fotorino ?
Mais en fait, si vous voulez, l'interrogation, c'était en effet comment pour un numéro 1, on pouvait incarner ce que serait et donner à comprendre ce que serait cette légende. Eh bien, Zidane, c'était vraiment le 1 parmi 11, et c'était effectivement l'idée que c'est une équipe qui a remporté cette Coupe du Monde en 98 et qu'il y avait un homme en particulier et qui avait ses origines, c'est-à-dire franco-algérien, avec cette enfance à Marseille, avec tout ce lien qu'a permis l'immigration depuis plusieurs générations de football. Il y a eu celle de Raymond Coppa, la Pologne, les années 50, et puis Platini, les années 70, et puis Zidane, les années 90. Donc à travers lui, il y avait cette incarnation d'un homme dans une équipe qui a gagné. Il y a une citation à un moment donné qui dit « Donnez-moi 10 bouts de bois et Zidane et je gagnerai la Coupe d'Europe ». Eh bien, c'est ça, c'était cette singularité que j'ai voulu montrer à travers lui.
Il y a un petit texte d'Adèle Vendrette qui dit « Zidane est l'être humain qui se rapproche le plus de la divinité ». Mais oui. pour autant, l'ensemble n'est pas géographique. C'est pas...
Non, c'était pas le but. Et d'ailleurs, Adèle Vendrette continue en disant qu'il est d'autant plus parfait qu'il a assumé de ne pas l'être. Exact. Et évidemment, ce fameux coup de boule qui a ponctué la fin de, non pas de la légende, mais la fin de sa carrière, où on a montré cette photo où il passe à côté de la coupe, la tête baissée, avec Thierry Gilardi, ouais. qui dit non, pas ça, Zidane, pas maintenant. Donc oui, effectivement, moi je ne voulais pas qu'on fasse des hagiographies, ni qu'on fasse de la paillette et du superficiel ou de l'anecdotique. C'est que la légende nous renvoie notre image dans un miroir. C'est-à-dire que chaque légende qu'on choisira sera là aussi pour nous dire notre époque, une époque qui a passé et une époque dans laquelle nous avons vécu, nous, vous, moi, tous ceux qui nous écoutent, et on en a ce souvenir ou ce ressouvenir, dirait Proust, et cette idée aussi que ça fait partie de nous, qu'on s'intéresse au foot ou pas. Zidane, son parcours, ce qu'il a fait de bien et de moins bien, c'est aussi quelque chose qui est en écho avec nous, avec nos vies.
C'est un numéro que vous avez fabriqué pendant le confinement
Complètement. Et d'ailleurs, ça a été une difficulté. Alors, on avait choisi Zidane au départ parce qu'il y avait normalement un euro de football. Oui. C'était comme ça, se ressouvenir effectivement de cette légende. Ensuite, on n'a pas du tout dévié. On s'est dit, on va, même si les Français sont privés de foot, de stade, de match, il y aura Zidane. Et on l'a fait, la difficulté avec le format que vous avez indiqué, très grand. Sur des écrans, on ne voit pas exactement la même chose. On a fait quand même une fois dans nos locaux du 1, on a fait une réunion ensemble, ce qu'on appelle un mur, pour se rendre bien compte de l'emplacement des photos, de comment elles sortaient, du texte, de la typographie. Créer un journal, c'est vraiment un objet et chaque détail compte. Donc il fallait à un moment donné qu'on se voit, qu'on sorte des écrans.
Légende en kiosque et en librairie. On va parler des kiosquiers des points de vente aussi. Dans un instant, ils sont sinistrés, et pas seulement eux, par la liquidation de Presstalis, le principal distributeur de presse. Les menaces qui pèsent sur toute la presse écrite, on y revient avec vous, Éric Fotorino, à tout de suite.
Europe 1. La suite de cette arrivée demain, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Avec Éric Fotorino, créateur du 1 d'America, de Zadig et maintenant de Légende, auteur il y a quelques semaines d'un livre en forme de manifeste ou de plaidoyer. La presse, c'est un combat de rue. C'était juste avant la faillite de Presstalis, le distributeur ex-NMPP a baissé le rideau sans payer ses dernières créances. Ce sont des millions d'euros qui manquent maintenant aux éditeurs de presse, Éric Fotorino.
Oui, mais oui, c'est exactement ça. C'est vraiment le sang qui circule dans les veines et l'oxygène qui est transporté pour pouvoir vivre. Et donc, pour les éditeurs indépendants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sous contrôle d'actionnaires ou qui n'ont pas de publicité, ça représente 30 millions d'euros pour 200 petits éditeurs. Les pertes au total sont de plus de 120 millions d'euros pour Presstalis. Et si on regarde les fonds propres, sont des fonds propres négatifs. On a du mal à l'imaginer, de 450 millions d'euros. Donc, on voit bien la déroute que ça représente de gestion, et les conséquences sont effectivement pour les éditeurs et plus particulièrement évidemment ceux qui n'ont pas d'autres ressources que les recettes qu'ils obtiennent dans le réseau des marchands de journaux.
Avant de voir les conséquences sur la Presstalis, vous dites clairement qu'il y a eu une gestion frauduleuse, qu'il y a une forme de vol.
Depuis des années, c'est pas nouveau. En 2018, j'avais publié un numéro spécial du 1 qui s'appelait « Au kiosque citoyen » avec une enquête de Philippe Kieffer, grand journaliste sur les médias, une longue enquête, et qui montrait bien que la gestion, on ne pouvait pas creuser des trous comme ça par simplement des erreurs de gestion. Il y a eu effectivement une gestion frauduleuse qui, je pense, devrait être passible de pénal pour les dirigeants, non pas les dirigeants en tant que tels, mais les actionnaires, le conseil d'administration qui s'est octroyé pendant des années ce qu'on appelle dans d'autres domaines des marges arrière ou des ristournes, qui faisait qu'ils ne payaient pas pour leur publication le montant que représente, qui est très coûteux, de la distribution de la presse en France. Donc effectivement, on a évité ces poursuites, mais on n'a pas évité la catastrophe qui est cette faillite.
Alors plusieurs titres sont en péril, hein, vous l'avez dit, ceux qui n'appartiennent pas à un groupe de presse. Le magazine Point de Vue est dans le même cas, il y a d'autres exemples. Vous demandez au pouvoir public d'intervenir là ?
C'est-à-dire qu'en fait, les pouvoirs publics, ils sont sollicités pour beaucoup de choses. Nous, nous ne sommes pas là à tendre la main en demandant une aide. On demande simplement que les sommes qui ont été bloquées, gelées, vous savez qu'il y a un processus de règlement judiciaire, dans ces cas-là, les sommes sont gelées, les créanciers ne sont pas payés. Eh bien, que cet argent qui doit bien exister quelque part, pour ce qui concerne notre petit groupe, hein, le 1, c'est 930 000 euros. Donc, si vous voulez, 930 000 euros, c'est un cinquième de notre chiffre d'affaires. Ouais. Des publications comme Uzbek Erika ou Society ou Oui Demain sont des publications qui, elles, pareil, ont besoin de cet argent pour vivre, non pas pour se développer, c'est simplement pour vivre. Et donc, effectivement, ce qu'on a demandé au pouvoir public, c'est qu'il puisse créer un fonds de soutien avec présentation, j'allais dire, des factures. C'est-à-dire, nous, on montrera ce qu'on nous doit, c'est pas au-delà. Et effectivement, c'est notre dernière solution, puisque de Presstalis, ça a été dit, il ne ressortira plus rien, c'est-à-dire on ne peut plus compter sur Presstalis pour toucher, pour recevoir nos recettes.
Le confinement a bien sûr aggravé les choses pour les points de vente, les kiosques et les différents points de distribution dans les villes et les villages. Il y a aujourd'hui quoi, 20 000 points de vente à peu près de la presse en France ?
Oui, c'est ça, 22 000. Disons qu'il y en a en réalité 14 000 qui sont vraiment, vraiment très actifs. Mais au total, effectivement, c'est des petits points. Moi, je compare ça souvent à des petits foyers de démocratie au carrefour ou au coin du village. C'est-à-dire que c'est quand même là que la pluralité des idées, c'est le premier bien culturel sur lequel un citoyen peut mettre la main, un journal. Et donc, si vous voulez, le fait qu'au fur et à mesure, ils disparaissent, ils s'éteignent et certains ferment, c'est des petits morceaux de démocratie qui s'éteignent en même temps.
C'est pour ça que vous dites que la bataille se jouera dans la rue. C'est ce qui fait le titre de votre livre. La presse écrite, vous en êtes un passionné, Éric Fotorino, et vous pensez que ça n'est pas un passé révolu, que l'imprimé a de l'avenir en se réinventant.
Oui, je le crois d'autant plus, ça fait longtemps que je le crois, mais paradoxalement, je pense que la période qu'on vient de vivre avec cette bascule très forte vers l'économie numérique et vers les usages numériques n'empêche pas, au contraire, qu'il y ait des mouvements de balanciers contraires pour l'imprimé, parce que l'imprimé, c'est le lieu plus indiqué pour à la fois la hiérarchie et la lenteur. Mmh. Et donc, si vous voulez, je pense que plus on sera dans les écrans, plus on sera dans une forme de dématérialisation où tout a l'air de valoir tout, je pense qu'il sera très important comme un besoin, comme un antidote, non pas de supprimer le numérique, ce qui serait absurde, mais en revanche de trouver des lieux, des espaces où le temps reprend ses droits. Et d'une certaine manière, je vois souvent des lecteurs qui nous disent « le temps que nos machines nous volent, vous nous le rendez ». Et je pense que la presse écrite rend leur temps aux lecteurs et leur permet effectivement de réfléchir avec le temps qu'il faut et non pas dans la vitesse. Et la vitesse aujourd'hui est quelque chose qui évidemment nous empêche probablement de réfléchir comme il faudrait.
Et en même temps, les magazines que vous avez créés, ils sont disponible aussi en librairie dans un autre réseau de points de vente. Hein.
Oui, c'est un peu c'est l'univers du livre aussi, parce que d'abord ce sont des objets comme America ou comme bien sûr Zadig et puis maintenant Légende. Et puis je pense que plus on dématérialise, plus on a besoin de resacraliser des objets justement, et que ces objets, que regardez sur le vinyle par exemple, les vinyles d'aujourd'hui pèsent 380 grammes, donc ils sont plus lourds que ceux qu'on avait dans notre jeunesse. Donc c'est vrai que on remet du poids aux objets là où on peut.
Légende en kiosque et en librairie mercredi prochain avec Zidane pour le numéro 1. La presse, c'est un combat de rue, une coédition Le 1 et les éditions de l'Aube. Merci beaucoup Eric Fotorino.
Merci à vous Patrick Cohen, bonne journée.